France Musique.
Bonjour à tous, merci d'avoir choisi le 8-9 de France Musique pour démarrer votre émission, votre week-end, pardon. Les sujets de l'émission du jour, comment faire la programmation d'un festival d'été, les conseils de Marc Chisson du Festival du Périgord Pourpre. À 8h15, le jeu des places à gagner si vous êtes dans la Creuse le 15 août. À 8h20, la revue de presse musicale de la semaine. À 8h25, musique et écologie en Ile-de-France avec Pedro Octavio Diaz de la FEVIS. À 8h30, Figaro in the City par David Stern qui nous livre une pensée pour son père, Isaac Stern. À 8h40, Pierre Gallon sera notre invité en direct pour parler de la musique de la Renaissance. Et à 8h50, pour la petite histoire, aujourd'hui un autre 8 août, c'était en 1588, la défaite de l'armada espagnole. Allez, musique. La musique de Robert Schumann pour bien nous faire commencer la journée, le menuet de son quatuor avec piano, avec André Prévin au violoncelle, Jung Uk Kim au violon, Aichiro Oyama à l'alto et Gary Hoffman au violoncelle. Comment programmer son festival? C'est le premier sujet de ce 8-9. Qui mettre à l'affiche? Quelle musique faire écouter à son public? Selon les lieux et l'histoire des festivals, les façons de faire changent. Certains thématisent. On peut faire un festival Chopin, un festival Bach, des festivals de musique de chambre, un festival de musique ancienne, etc. D'autres font venir surtout les stars du moment avec leur programme du moment. Marc Chisson, directeur du festival L'été musical en Bergerac, dans le Périgord pourpre, a opté pour le mélange des genres.
Le mélange des genres a toujours été, à l'origine, c'était l'idée première quand j'ai construit ce festival, et déjà, j'avais donné la note au début, il y avait un concert de jazz, c'était d'ailleurs, je m'en rappelle très bien, c'était Martial Solal et Jean-Louis Chotant, il y avait un concert de musique classique, si ça veut dire quelque chose, il y avait déjà un ballet avec les Étoiles de l'Opéra de Paris, il y avait un beau concert de musique de chambre, il y avait le concert de tous les stagiaires avec leurs professeurs, la touche était donnée déjà. Et puis après, sur la belle place de Montpazier, j'ai programmé bien sûr du théâtre, des acteurs comme Michel Bouquet, etc., sont venus dans les pièces, toujours sortir du répertoire traditionnel, les pièces de Ionesco, etc. Et ce sont des lieux qui permettent d'avoir des programmations audacieuses si on s'en donne les moyens.
L'été musical en Bergerac en est à sa 32e année d'existence. Il a lieu du 2 au 16 août dans la région de Montpazier, Biron et Marsalès. Et Marc Chisson a à cœur de transformer sa région en petite ville culturelle avec ici un cabaret de jazz, ici une scène d'opéra ou encore là un auditorium pour la musique de chambre.
Dans les lieux que je propose, j'ai toujours souhaité donner le meilleur dans les meilleures conditions en faisant une programmation adaptée au lieu. Quand je suis sur la place des Cornières, la superbe place de Montpazier, bastide anglaise, une des plus belles de la région, j'y mets pas n'importe quoi, je vais pas y mettre un concert de musique de chambre. Je n'y mettrai pas la 9e de Beethoven pour deux pianos. Mais par contre, je programme ça dans la cour basse du château de Biron, qui est vaste mais moins ouverte, enfermée, sainte par les hauts murs du château, de la chapelle haute, etc., et de la grande tour, qui fait que le son porte tout seul, surtout le soir. Mais j'ai d'autres lieux où la musique de chambre a toute sa place.
Toute sa place, y compris pour que le public puisse circuler sans danger. Programmer un festival, c'est également tenir compte des exigences sanitaires du moment pour assurer la sécurité du public, se tenir au courant des dernières normes. Marc Chisson, toujours directeur de l'été musical en Bergerac.
En fonction de la diversité des lieux, je n'ai pas les mêmes consignes. Les plus ardues ont été concernant les lieux très visités par le public, appartenant au département, comme le château de Biron notamment. Et après avoir eu l'accord et même le soutien et les encouragements du président du conseil départemental, on m'a invité chaudement à proposer un protocole sanitaire au préfet. Donc j'ai appliqué toutes les règles, c'est-à-dire inviter le public à venir avec un masque. Il a l'autorisation de le retirer dans les concerts, pour les concerts en plein air. Il est invité à le garder dans les concerts à l'intérieur. Ça se passe sans problème. Nous avons bien sûr avec nous force masque et gel, etc. Et bien sûr, les règles de distanciation entre les personnes qui ne viennent pas ensemble et qui ne se connaissent pas.
L'été musical en Bergerac, c'est donc jusqu'au 16 août. Tous les détails sont sur la page de notre 8-9 sur francemusique.fr. Au programme Les Tromanos, le violoncelliste Gary Hoffman que nous avons entendu avec André Prévin en début d'émission, la 9e de Beethoven pour deux pianos avec Philippe Cassard et Cédric Péchat. Ce soir, à 21h au château de Biron, ce sera le Jackie Terrasson Trio. On les écoute, Smile de Chaplin.
Thank you.
Smile, Jackie Terrasson au piano, Sean Smith et Rémi Vignolo à la basse, Eric Harland à la batterie. France Musique, il est 8h15, c'est le jeu. Aujourd'hui, vous avez des places à gagner si vous êtes dans la Creuse le 15 août vers l'abbatiale de Bénévent-l'Abbaye pour le spectacle de l'ensemble de musique ancienne La Chapelle harmonique autour des fables de La Fontaine. Une question, trois réponses possibles. Nous allons entendre une fable de La Fontaine, La Cigale et la Fourmi, si ça vous dit quelque chose, mais mise en musique par qui ? Hector Berlioz, André Messager ou Jacques Offenbach, si vous pensez avoir la réponse, rendez-vous sur l'onglet « Contactez-nous » de la page de l'émission sur francemusique.fr. C'est parti.
Thank you.
Berlioz, messager ou Offenbach? Réponse sur l'onglet Contactez-nous sur la page de l'émission sur francemusique.fr. J'ai néanmoins le droit de vous dire que vous avez entendu la voix de Karine Dehé.
Musique Matin, le 8-9 de Christophe Dillis. France Musique, c'est l'été.
8h20 sur France Musique, c'est l'heure de l'actualité musicale de la semaine. Lundi, nous apprenions que les travaux de nettoyage avaient commencé pour l'orgue de Notre-Dame de Paris. Première étape, démontage de la console. Avant de démonter les tuyaux, rendez-vous dans 6 mois. Mardi, c'était l'annonce de la date de sortie du documentaire sur Billie Holiday. Le 30 septembre, une date de sortie qu'on attendait depuis la fin des années 60. Mercredi, à l'international, c'est l'orchestre de Boston aux États-Unis qui annonçait l'annulation de 37 concerts entre septembre et novembre. Jeudi, nous apprenions le décès de Bernard Stiegler. Il était philosophe, spécialisé dans l'impact de la technologie dans la société d'aujourd'hui. Il avait été nommé directeur de l'IRCAM de 2002 à 2006. La musique peut sauver le monde, oui, mais comment?
Pourquoi est-ce que nous disons la musique doit sauver le monde et peut sauver le monde? La musique au sens large. C'est parce que la musique produit de la négantropie, c'est-à-dire quelque chose d'absolument inattendu. Nous sommes dans une société que la technologie dominait par une certaine façon de la pratiquer. La technologie, c'est-à-dire les instruments, c'est-à-dire les instruments de musique. Parce que un instrument de musique, c'est aussi de la technique ou de la technologie. Car si Pythagore, si les Grecs pratiquaient la musique, pour eux, c'était de l'arithmétique, la musique. Le monocorde, c'était un instrument qui servait aussi à calculer des proportions.
Bernard Stiegler, en 2015, a tourné hier enfin, c'est l'English National Orchestra, Opera, qui se lançait dans un programme d'études sur les possibles effets bénéfiques du chant sur les malades du coronavirus en rémission. 40 patients subiront 6 semaines de tests. Alors, maladie et musique, c'est un sujet qui revient beaucoup en cette période où il faut réinventer le concert pour pouvoir faire de la musique sans se mettre en danger. Et après tout, pourquoi ne pas alléger un petit peu le ton? Un extrait de la comédie ballet Le Malade Imaginaire, c'est malin. Le texte est de Molière, la musique est de Marc-Antoine Charpentier. William Christie à la tête de César Florissant, un extrait de la comédie ballet Le Malade Imaginaire, musique de Marc-Antoine Charpentier. France Musique, 8h25, après musique et santé, un autre sujet, musique et écologique. Écologie, musique et verdure en Ile-de-France, c'est le message du festival Où Verture en Ile-de-France, jusqu'au 30 août dans tous les parcs et les jardins de la région. Ce festival est organisé par la Fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés. Pour Pedro Octavio Diaz, membre de l'équipe artistique, l'écologie passe par le local.
On doit des artistes en général vraiment à la pointe du respect de la démarche écologique. Vous verrez vraiment très peu qui vont avoir des bouteilles d'eau, par exemple. La plupart des ensembles qui participent aux vertures sont concernés directement par l'empreinte carbone. Et notamment, ce festival est un festival vraiment local. On évite vraiment d'abuser un peu de la voiture. Donc, plus qu'aller à l'étranger en tournée, les artistes sont conscients maintenant que peut-être il faut se retrouver avec les publics les plus proches d'eux, surtout selon les lieux de résidence. Et en fait, on a vu, là, dans la plupart des concerts au mois de juillet, la réponse est vraiment extrêmement positive des publics. Il y a certains publics qui n'étaient pas du tout attirés par la musique spécialisée, qui certainement reviendront après des concerts spécialisés, parce que c'est des petits électrochocs, on va dire. Si les musiciens professionnels vont dans les lieux que le public fréquente régulièrement dans leur quotidien, peut-être que ça, c'est une solution pour ramener de nouveaux publics dans d'autres espaces, ou même de créer des connexions dans des espaces inattendus.
Les ensembles qui investissent ces espaces verts du quotidien, ce sont vraiment des ensembles importants qui, justement, ont l'habitude des voyages à l'étranger, le Cercle de l'Harmonie, Pulcinella ou encore Opéra Fuoco. C'est l'occasion pour les ensembles concernés de réfléchir plus activement à la place de la musique dans la vie quotidienne du public, de sortir des salles de concert. Tous les renseignements sont sur la page de notre émission. C'est jusqu'à la fin du mois, dans les espaces verts de Brunois, de la Roche-Guyon, d'Aubervilliers ou encore de la Courneuve. Par exemple, au Square Toussaint, l'ouverture de Stein, le 25 août, vous entendrez par le quatuor à cordes de l'Orchestre Symphonique Divertimento, ceci. Le Carillon, parfait pour se tirer du lit, je trouve, tiré de la première suite de l'Arlésienne de Georges Bizet, dans une version que j'aime beaucoup, Georges Prêtre, avec l'Orchestre Symphonique de Bamberg. Musique dans la ville, c'est aussi en quelque sorte le projet du Figaro in the City de la compagnie Opéra Foucault, atelier lyrique professionnel qui propose ce soir et lundi soir au château de la Lande à Crozon-sur-Vauvre dans l'Indre, une version assez particulière des Noces de Figaro de Mozart. Pourquoi Figaro in the City? David Stern, directeur musical d'Opéra Foucault.
In the City, c'est parce que les relations entre la plupart des personnages des Noces de Figaro sont des relations qu'on comprenne et qu'on reconnaît aujourd'hui, au XXIe siècle. Et si on le met dans un contexte vraiment où c'est sur les mots et sur les regards, je trouve que ça donne un esprit sur l'œuvre, ça dépoussière.
Vous assumez le mot dépoussiérer alors?
J'assume parce que j'adore les Noces. Les Noces, ça fait partie des 10 opéras parfaits du répertoire. Je trouve qu'il y a tellement de niveaux de subtilité dans le texte et dans cette musique. Si déjà on n'a pas le droit d'être dans des salles traditionnelles et avec une fosse traditionnelle, une mise en scène traditionnelle, pourquoi pas utiliser les moyens qui sont devant nous pour pouvoir le raconter avec une fraîcheur, une certaine fraîcheur. Et je ne l'ai pas fait parce que je cherchais un nouveau public. Mais en le faisant, j'ai regardé ce qui se passait entre les jeunes de la troupe d'Opéra Foucault. C'est un atelier lyrique avec des jeunes chanteurs qui se connaissent, qui savent comment jouer ensemble. Et il y avait quelque chose qui marchait tout seul. Il y avait une combinaison et une articulation sur l'œuvre qui m'a surpris parce que je l'ai dirigé tellement souvent. Et encore, j'ai beaucoup appris en faisant cette version.
Kill!
D'un aîné de Mozart, Johann Christian Bach, Zanaïda, le début et la fin de l'opéra par la compagnie Opéra Foco, dirigée par David Stern. Oui, Stern, comme Isaac Stern, parce que David est le fils du fameux violoniste qui aurait eu 100 ans cette année. France Musique célèbre cet anniversaire tous les samedis et dimanches du mois d'août, de 11h à 12h30 avec Emmanuel Franc. Pour nous, Isaac Stern, c'est un monument historique, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi un papa. Qu'est-ce qu'un tel anniversaire peut représenter pour son fils, David, qui a gentiment accepté de nous en parler?
Très honnêtement, la leçon qu'il m'a appris, que je garde avec moi, bon, il y a deux parties de cette leçon. La première, c'est ne jamais arrêter d'écouter. Pendant le concert, pendant les répétitions, bien sûr, mais dans la vie, il ne faut jamais arrêter d'écouter, d'écouter autour de vous qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ce qu'on entend autour de soi-même. Et deuxième chose, c'est apprendre pour soi-même. Ne pas attendre de suivre la dictation de quelqu'un d'autre. Il faut penser pour soi-même, il faut prendre des éléments, les mettre ensemble et le rendre unique à vous. Quand je fais un opéra de Puccini ou de Mozart ou de Handel, que j'ai fait assez souvent, j'essaie toujours de me remettre dans cette position. Comment est-ce que je peux le comprendre pour la première fois? Qu'est-ce que je peux avancer? Pas simplement dire je le refais, mais je le fais à nouveau et d'une manière qui me parle. Et je l'entends à côté de moi en disant, mais est-ce que tu es assez exigeant avec toi-même? Et c'est ça. Il faut être très exigeant avec soi-même. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de nuits blanches dans la vie, mais ça veut dire aussi qu'on ne s'ennuie pas.
Le presto de la première sonate pour violon BWV 1001 de Jean-Sébastien Bach par Isaac Stern au violon. France Musique, il est 8h42, l'invité du jour.
Musique Matin, le 8-9 de Christophe Dillis. France Musique, c'est l'été.
Nous allons rester dans la musique ancienne avec Pierre Gallon. Il est claveciniste et s'il n'est pas en récital ou en train d'enregistrer un disque, il est à la basse continue de grands ensembles comme le Poème harmonique ou l'ensemble Pygmalion. Et si vous êtes du côté de Saint-Georges-Nigremont dans la Creuse mercredi prochain 12 août, il sera en récital atteignant auprès de vous. Bonjour Pierre Gallon.
Bonjour Christophe, merci de votre invitation.
Récital Pierre Attaignant, musique parisienne de la Renaissance. Nous sommes dans la première partie du XVIe siècle, les années 1500. Il naît à peu près au moment du débarquement de Christophe Colomb en Amérique, c'est la France de François Ier. Récital Pierre Attaignant, mais en fait, il n'est pas compositeur.
Alors non, effectivement, c'est pourtant, on fait souvent la confusion. C'est un éditeur, Pierre Attaignant. C'est lui qui invente un système tout à fait révolutionnaire, qui va faire date dans l'imprimerie musicale, hein, et donc il va se mettre à son compte pour imprimer les partitions de Clément Jeannequin, de Claudin de Sermisy, et aussi de beaucoup de compositeurs dont on ne connaît pas l'identité. Et c'est le cas des pièces pour clavecin. Il publie 7 livres de pièces pour clavecin, ou pour orgue, ou pour clavicorde. C'est encore à cette époque où les répertoires entre ces instruments ne sont pas distincts. Et donc, il publie 7 recueils de compositeurs tout à fait anonymes qu'il publie en son nom propre, et c'est pour ça probablement que la confusion a lieu souvent.
Alors oui, vous parlez de clavicorde. C'est vrai qu'on associe le clavecin à une musique un peu plus tardive, plutôt Bach, Scarlatti, Handel. Et à la Renaissance, quand on parle de clavecin pour la musique, on parle aussi d'épinette de Virginal et de clavicitarium. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'instrument sur lequel vous allez jouer le 12 août à Saint-Georges-Nigremont dans la Creuse?
Oui, alors toutes ces dénominations, clavecin, épinette, manicordion, on disait aussi pour le clavicorde, sont des nomenclatures presque assez modernes à l'époque où les instruments n'étaient pas encore fixés dans le marbre, où on les inventait à chaque instrument qui sort de l'atelier. Les choses sont pas encore tout à fait fixées. Pourtant, le premier clavecin, en tout cas le plus ancien qu'on ait conservé, qui est aujourd'hui conservé à Londres, date de la toute fin du 15e siècle. Donc vous voyez, on est encore loin du clavecin de François Couperin. C'est pourquoi ce concert que je vais donné à Saint-Georges-Nigremont, je vais le faire sur un clavecin un peu plus tardif que ce qu'il faudrait. Ça va être un clavecin aux alentours des années 1600 pour un programme qui se trouve dans les années, vous l'avez dit, 1530, 1531 exactement pour la publication d'Attaignant.
Et c'est votre instrument ?
Alors, c'est en réalité un instrument qu'on va me prêter pour l'occasion. C'est un instrument de Philippe Humeau, d'après Andreas Rückers, qui appartient à mon ami de longue date, Johan Moulin. J'en profite pour remercier ici.
Ah oui, parce que les pianistes qui font des tournées, on peut les mettre sur des Steinway, et puis ils savent à peu près ce qu'ils vont avoir sous les doigts à l'avance. Mais vous, en tant que claveciniste un peu itinérant, vous savez jamais vraiment ce sur quoi vous allez tomber.
Oui, et c'est un bonheur, pas toujours, mais quand même globalement un bonheur de savoir un peu jongler sur différents instruments. Du reste, ça fait partie de la formation, hein, de savoir dompter des différentes bêtes, si je puis dire. En tout cas, on joue pas sur le même instrument quand on fait de la musique comme c'est le cas ici de la Renaissance, ou quand on fait de la musique française du 18e, quand on fait de la musique italienne du 17e, on apprend à jongler avec les différentes caractéristiques de ces instruments, et ça fait partie de la formation. Alors effectivement, parfois on tombe sur des instruments qu'on pour le coup on aimerait avoir son Steinway de référence parfois, mais voilà, il faut apprendre à bricoler pour que ça sonne, et puis ça fait partie du jeu.
Alors vous serez en concert donc le 12 août à Saint-Georges-Nigremont dans la Creuse pour un programme édité par Pierre Attaignant. Nous allons nous quitter avec de la musique justement éditée par Pierre Attaignant. Ça ne vient pas de votre disque, mais vous allez être à l'orgue avec l'ensemble Les Harpies dans une suite de branles pour cornemuse, violon, régal et orgue, édité par Pierre Attaignant. Donc merci beaucoup Pierre Gallon.
Ben merci à vous, bonne journée. Thank you.
une suite de branles du XVIe siècle éditée par Pierre Attaignan par l'ensemble Les Harpies. Vous écoutez France Musique, il est 8h50, c'est l'heure de la petite histoire. Un autre 8 août, le 8 août 1588, la défaite de l'armada espagnole.
God save the Queen!
God save the Queen!
You shall fight fire with fire.
Vous allez combattre le feu par le feu. Et si vous preniez sept petits navires, que vous les recouvriez de goudron, que vous y mettiez le feu et que vous les dirigiez contre la plus grande flotte que le monde ait jamais connue, et si au lieu d'épées, vous preniez des torches? Le 15 août 1588, vous venez d'entendre Flora Robson dans le rôle de la reine Elisabeth en 1937 dans le film L'Invincible Armada. Nous sommes dans les années 1580, après des années d'hostilité entre l'Espagne et l'Angleterre, le roi Philippe II d'Espagne assemble une extraordinaire flotte de navires, une armada, dans le but de détrôner la reine protestante Elisabeth Ière et ainsi restaurer la foi catholique en Angleterre. La flotte se lance en mai 1588, 130 navires espagnols, 8000 marins, 18000 soldats. Le 8 août 1588, à minuit, les Anglais embrasent 8 de leurs navires et les envoient contre les Espagnols. Un vent de panique détruit les rangs des Espagnols. Ils retourneront en Espagne en automne, après avoir perdu 60 navires et plus de 15 000 âmes. À l'origine des tensions entre l'Espagne et l'Angleterre, le décret de la reine autorisant les corsaires à mener des activités de pirates contre les navires espagnols revenant du Nouveau Monde. Parmi ces corsaires, Sir Francis Drake. Et si Francis Drake était un corsaire très amateur de musique? Sur ces navires, on comptait souvent dans son équipage des musiciens qui jouaient de la trompette, du hautbois, de la flûte à bec et de la viole pour le tenir compagnie pendant les longs voyages. Donc maintenant, nous pouvons répondre à la question qu'écoutait le corsaire Sir Francis Drake sur son navire. Musique de Matthew Locke, peut-être celle entendue dans le navire de Sir Francis Drake et sa suite numéro 2 pour violon, flûte à bec, basse de viol et théorbe, c'était l'ensemble Palladian. La réponse au jeu de tout à l'heure, la cigale et la fourmi, c'était de Jacques Offenbach. Bravo à celles et ceux qui ont remporté les places. Merci pour la préparation de cette émission à Dorothée Goll et Margot Muller. Et à la réalisation Marie-Laure Ciboulet, à la technique Cindy Le Grumelec. Bonne journée à tous sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.